VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 10 mai 2023. Au Burkina Faso, un préfet, levé par des hommes armés, a été retrouvé mort dans une forêt. La guerre continue au Soudan avec de fortes explosions aujourd'hui à Khartoum. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, critique la force régionale est-africaine.
C'est l'échec, cette force militaire régionale, qui n'a pas réussi à neutraliser, les M23 et toutes les autres forces négatives qui opèrent dans la région.
Dans la partie magazine, Marcel Ngoï, l'éditeur du quotidien La Prospérité, nous donnera les clés de lecture de la colère du président congolais. Un ancien gendarme rwandais, Philippe Ategué Kimana, devant la justice française pour génocide. Ici aux États-Unis, plus de 24 000 agents de l'ordre ont été déployés à la frontière mexicaine en prévision d'un afflux massif de migrants. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Guinée, des heurts ont opposé aujourd'hui à Conakry, des jeunes et les forces de l'ordre, après l'appel de l'opposition à une reprise des manifestations contre la junte et malgré une médiation religieuse en cours. Les affrontements ont fait au moins 8 blessés et 2 dans les rangs des forces de l'ordre. Les forces vives de Guinée, un collectif formé de partis, syndicats et d'organisations de la société civile, ont appelé à une série de manifestations dans le pays à partir de ce mercredi. Elles réclament l'ouverture d'un dialogue crédible pour un retour rapide des civils à la tête de la Guinée, la levée de l'interdiction des manifestations instaurées par la junte en 2022 et la libération de leurs membres emprisonnés. Au Burkina Faso, un préfet enlevé par des hommes armés a été retrouvé mort lundi dans une forêt de l'Ouest en proie à la violence djihadiste, indiquent des sources sécuritaires et locales. Le point avec Nani Talani.
Le ministère de l'administration territoriale a annoncé le décès, le 8 mai, de M. Kabore Amadou, préfet et président de la délégation spéciale de Tiriba, dans la région de la boucle du Mouan, dans l'ouest. Son corps a été retrouvé dans la forêt de Karo, à une vingtaine de kilomètres de Délougou. Les circonstances de sa mort n'ont pas été précisées. Selon les sources locales, le préfet avait pris lundi soir la route de Délougou, la capitale régionale, où il a assisté à une réunion pour rejoindre Tiriba. Il était accompagné d'un collaborateur et de son chauffeur. Les trois ont été interceptés par des hommes armés entre Délougou et Tiriba, à hauteur de la localité de Karo. Le chauffeur et le collaborateur ont réuni à s'échapper. Des opérations de ratissage ont été lancées dès l'annonce de sa disparition, mais n'ont pas permis de le retrouver.
L'armée nigérienne dit avoir intercepté depuis mars 1397 membres présumés de Boko Haram et de leurs familles fuyant de sanglants combats avec le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, au Nigeria voisin. Parmi les personnes interceptées puis remises aux autorités nigérianes, 960 sont des femmes et des enfants interpellés en mars par l'armée nigérienne qui affirme avoir également tué une trentaine de terroristes qui refusaient de se rendre selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Diffa. Les autorités nigérianes ont retrouvé 14 corps et secouru 21 personnes après le naufrage d'un bateau dans l'état de Sokoto. Le bateau transportait 36 personnes, principalement des femmes, achevées mardi alors qu'il traversait une rivière dans le district de Chagari. Une personne est toujours portée disparue. Au Soudan, de fortes explosions ont secoué Khartoum au 26e jour du conflit entre militaires et paramilitaires, sans aucune avancée dans les négociations sur les couloirs humanitaires pour évacuer des milliers de personnes. Les précisions de Nathalie Barge.
Des habitants d'Ondourman, ville jumelle de Khartoum, disent avoir été réveillés par des explosions et des tirs d'artillerie lourde. Dans la nuit, d'autres témoins ont entendu deux énormes explosions à Khartoum. Plus tard, des combats ont été signalés dans le nord de la capitale. Des habitants d'El Obeid, à 350 km à l'ouest de Khartoum, ont également fait état d'affrontements et d'explosions dans leur ville. L'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide menées par le général Mohamed Hamdan Daglo ont envoyé des négociateurs à Djeddah en Arabie Saoudite samedi pour des discussions sur des couloirs humanitaires. guerre, l'ONU a proposé aux deux parties de garantir un passage via une déclaration de principe. Mais jusqu'ici, aucune annonce n'a été faite. Deux avions saoudiens chargés d'aide humanitaire ont atterri hier à Port-Soudan, où des ONG tentent de négocier l'acheminement des cargaisons vers les zones où hôpitaux et stocks humanitaires ont été pillés ou bombardés. L'ONU estime le nombre de réfugiés à près de 177 000 et celui des déplacés internes à plus de 700 000.
Les négociateurs américains qui participent au pourparlers en Arabie Saoudite visant à prolonger le cessez-le-feu entre les forces rivales au Soudan sont prudemment optimistes, a déclaré aujourd'hui la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, qui témoignait devant la commission sénatoriale des affaires étrangères. Le procès d'un ancien gendarme rwandais, Philippe Hategimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Il est accusé de génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ses crimes lors des tueries en 1994 au Rwanda. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Je m'appelle Philippe Manier, a dit l'accusé quand le président de la cour d'assises, Jean-Marc Lavergne, lui a demandé de décliner son identité. Philippe Hategimana, 66 ans, devenu Philippe Manier avec sa naturalisation en 2005, était adjudant-chef à la gendarmerie de Kiaza dans la préfecture de Butare dans le sud du Rwanda. Il est soupçonné des meurtres de dizaines de Tutsis, dont le maire de Nkiazo, Narcisse Nyakasaka, qui résistait à l'exécution du génocide dans sa commune. Selon l'accusation, Philippe Manier, qui conteste les faits, est aussi suspecté d'avoir fait ériger des barrages routiers pour contrôler et assassiner les civils Tutsis. Selon les plaignants, il aurait joué un rôle important dans la perpétration du génocide. 40 partis civils, dont le collectif des partis civils pour le Rwanda, se sont constitués dans ce dossier. Le procès est prévu jusqu'au 30 juillet. S'il est reconnu coupable, l'accusé risque la réclusion à perpétuité.
En Tunisie, 5 personnes sont mortes après une fusillade mardi près d'une synagogue de l'île de Djerba alors que des centaines de personnes participaient à un pèlerinage juif. L'assaillant qui a été abattu était un gendarme en poste à Djerba, a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur, précisant que l'homme avait tiré sur un de ses collègues avant de se diriger vers la synagogue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis déploient plus de 24 000 agents et forces de l'ordre à leur frontière sud avec le Mexique. Le gouvernement redoute un afflux de migrants avec la fin programmée du dispositif connu sous le nom de Titre 42 qui doit prendre fin jeudi à minuit. Alexandre Nolognon.
Des milliers de migrants se massent déjà à la frontière au Mexique en attendant la fin de cette mesure. Pour se préparer à la déferlante de migrants, les autorités américaines ont déployé plus de 24 000 agents et forces de l'ordre à la frontière, ainsi que plus de 1100 coordinateurs de la police. Les États-Unis prévoient d'augmenter aussi les vols de rapatriement et jusqu'à 7 000 places d'hébergement supplémentaires dans les centres dédiés. Le titre 42, activé en 2020 par l'administration Trump et prolongé par son successeur, rendait quasi impossible le dépôt d'une demande d'asile aux États-Unis et permettait d'expulser sans délai les migrants au nom de la lutte contre le COVID-19. Selon les données des douanes américaines et de la patrouille frontalière, la mesure a été utilisée dans la plupart des quelques 2 millions d'expulsions de migrants illégaux depuis mars 2020.
Des centaines de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël ce mercredi, peu de temps après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait 7 morts dans le territoire palestinien, portant à 22 le nombre de personnes tuées depuis mardi. Il s'agit de l'escalade la plus importante entre des groupes armés palestiniens à Gaza et Israël depuis août 2022. Le président syrien Bachar al-Assad a été invité aujourd'hui par l'Arabie Saoudite au prochain sommet arabe prévu le 19 mai dans le royaume. Cette invitation consacre le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, d'où elle avait été exclue en 2011 pour sa répression du soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre civile. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan a été placé aujourd'hui en détention provisoire pour une affaire de corruption au lendemain de son arrestation qui a déclenché des émeutes provoquant l'envoi de soldats dans le Punjab. Le gouvernement a par ailleurs donné son feu vert au déploiement donc de ces soldats dans cette province la plus peuplée du pays où près de 1000 manifestants ont été arrêtés et 130 policiers blessés depuis le début des manifestations mardi. Et puis le président américain Joe Biden recevra le 22 juin le premier ministre indien Narendra Modi pour une visite d'État, la forme de réception la plus solennelle à la Maison-Blanche, a indiqué sa porte-parole ce mercredi. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talami.
La RDC est en pourparler avec l'Ouganda voisin en vue d'une éventuelle utilisation du pipeline prévu par Kampala pour exporter du pétrole, a déclaré le ministère congolais des hydrocarbures. L'Ouganda développe un oléoduc de 1445 km, évalué à 3,5 milliards de dollars, qui partira des champs pétrolifères de son bassin du Rift Albertin à sa frontière ouest avec le Congo jusqu'au port maritime de la Tanzanie dans l'océan Indien. Le pipeline est destiné à transporter le brut ougandais vers les marchés internationaux lorsque le pays va commencer la production en 2025. Le budget 2023 du Cap-Vert semble sur la bonne voie et est aligné sur le programme soutenu par la Facilité élargie du crédit, souligne le FMI. Toutefois, des risques à la baisse pourraient découler de l'affaiblissement de la demande extérieure sur les principaux marchés touristiques capverdiens. Cela pourrait avoir un impact sur la croissance. Pour terminer, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé ce mercredi qu'il est trop tard pour que les demandeurs nigérians poursuivent deux filiales de Shell suite à une marée noire en mer en 2011 qui, selon eux, a eu un impact dévastateur à long terme dans le delta du Nil. En 2011, il y a eu une fuite d'environ 40 000 barils de pétrole brut du champ géant de Shell Bonga au large des côtes du delta.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Quart de finale de la CAN des moins de 17 ans ce soir en Algérie.
Oui, deux gros chocs. Le Sénégal qui a surpassé ses concurrents en phase de poule défie l'Afrique du Sud. À suivre aussi le duel entre le Maroc et l'Algérie qui va évoluer devant ses supporters. Ce match est très attendu en raison des tensions politiques entre les deux pays, avec comme dernier épisode en date le retrait du Maroc du CHAN disputé en Algérie. Les deux autres quarts de finale se disputent demain jeudi. Le Mali, double champion, poursuit sa quête d'un troisième titre face au Congo. À Alger, le dernier quart de finale opposera le Nigeria au Burkina Faso.
Demi-finale aller de la Coupe CAF, toujours ce soir sur le continent.
Les Tanzaniens de Young Africans ont pris une sérieuse option pour la finale en dominant à domicile les Sud-Africains de Marumo Gallant 2-0. Le Burkinabé Stéphane Aziski et le Ghanéen Bernard Morrison sont les buteurs. Dans l'autre demi-finale, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa reçoivent les Algériens de l'USM Alger.
Ici en NBA, Philadelphie et Denver prennent l'avantage dans les demi-finales.
Les Philadelphia Sixers de Joel Embiid et les Denver Nuggets de Nikola Jokic ont pris l'avantage 3-2 dans leur série très disputée en dominant respectivement les Boston Celtics et les Phoenix Suns lors des matchs numéro 5. Le point avec Bagassi Koura.
Dans la confrontation face aux Celtics, c'est avant tout James Harden qui avait permis aux Sixers de revenir à 2-2 dimanche. La nuit dernière, son coéquipier leader Joel Embiid, sacré MVP de la saison régulière, a pris le relais, inscrivant 33 points pour un succès net 115-103. Cette performance sur le parquet de Boston permet à Philadelphie d'obtenir la possibilité de conclure à domicile la série lors du sixième match qui aura lieu demain jeudi à l'ouest. Denver, tête de série numéro 1, est de son côté parvenu à effacer l'échec de dimanche dans l'Arizona, là aussi avec brio grâce à une victoire 118-102. Face aux Suns, Nikola Jokic qui a échappé à une suspension après avoir bousculé le propriétaire de Phoenix lors du dernier match a composté un nouveau triple-double, 29 points, 13 rebonds et 12 passes décisives. Les Nuggets peuvent désormais espérer la qualification pour la finale de conférence dès ce jeudi, mais il faudra pour cela s'imposer sur le parquet des Suns. Dans les deux autres séries en cours, les Los Angeles Lakers mènent 3-1 face aux Golden State Warriors, tenant du titre en danger, et le Miami Heat qui mène les New York Knicks sur le même score.
Merci, Bagassi.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Climat morose entre les forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et les autorités de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a déploré hier lors d'une conférence de presse au Botswana la cohabitation entre les forces est-africaines à RDC et les groupes armés, précisément avec les rebelles du M23. Pour une analyse, Eddie Sango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
Je considère que le président de la République en a eu ras-le-bol en ce qui concerne l'institution d'une force militaire régionale qui a du mal à exécuter la mission pour laquelle cette force a été sollicitée. Je considère que cette force n'a pas rempli correctement ses obligations et tout comme elle a failli totalement à la mission qui lui a été confiée. Donc ça veut dire que c'est un échec, cette force militaire régionale, qui n'a pas réussi à neutraliser, n'est-ce pas, le M23 et toutes les autres forces négatives qui opèrent dans la région. Et donc le président a raison de changer son fusil d'épaule, dès lors qu'il considère que la première stratégie n'a pas réussi.
Qu'est-ce que cela veut dire quand le président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, parle de la fin de mission de l'EAC en juin? Peut-on s'attendre à ce que la RDC ne renouvelle pas cette mission?
C'est toujours possible, parce que maintenant, c'est vrai que le président veut faire confiance à la force est-africaine venue de l'autre côté du pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et le fait que le président se tourne aujourd'hui vers la SADC en lieu de place de l'EAC, c'est une décision qui est constitutive d'une nouvelle orientation. Parce que loin de substituer les forces, c'est la juxtaposition qui va se faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à multiplier les forces opérationnelles dans l'Est. On va peut-être prendre maintenant la force de la SADC qui va remplacer celle de l'EAC pour ne pas avoir les doublons.
Mais il faut dire qu'il y avait déjà cet épisode de la démission et du remplacement du chef d'état-major qui est un Kenya, le lieutenant général, le général-major Jeff Niaga, il y a une semaine.
Oui, le malaise était déjà là, parce qu'en fait, le président de la République n'a pas noté d'avancée significative sur le terrain. Mais même là, il y a une sorte de complicité entre les forces de la communauté d'Afrique de l'Est et les groupes armés, dont le M23 en tête. Et donc aujourd'hui, on voudrait avoir une force qui soit constituée plus ou moins des pays qui ont le cœur à l'ouvrage pour cette fois-là faire l'opération. Vous savez que l'Angola avait promis d'envoyer un contingent de 500 militaires, mais aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud qui fait partie, dont les militaires font partie de la MONUSCO. Alors, il y a certainement des questions qui restent en termes de détails pour savoir si l'Afrique du Sud, qui est déjà dans la MONUSCO, va vraiment aligner des gens ou donner seulement le matériel. Mais ce qui est important est que on a une présence de la communauté d'Afrique australe qui risque de se substituer à la première. Donc, pour ne pas avoir à la fois l'EAC et la SADC sur le même terrain, sur le même théâtre d'opération.
Marcel Ngoyi, l'éditeur du quotidien La Prospérité, paraissant à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Cameroun, un programme de reconversion d'anciens footballeurs dans la filière Banane Plantain a été officialisé hier à Yaoundé. La Fédération camerounaise de football va sélectionner pour une formation suivie de financement les anciennes gloires du ballon rond qui veulent se lancer dans l'agriculture. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolenta.
Plusieurs anciens footballeurs sont venus s'imprégner du contenu du programme de reconversion dans la filière Banane Plantain. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto, ne tarit pas d'éloges sur ce programme.
La filière de production Banane Plantain est un gisement d'opportunités. Tout le monde ne peut pas devenir entraîneur ou dirigeant du football. Nous devons donc aider ces retraités du football à opérer une reconversion réussie dans le secteur productif. Il est judicieux de recycler nos footballeurs dans les métiers valorisants de l'agro-industrie.
La Fédération camerounaise de football va sélectionner les bénéficiaires qui vont être encadrés par l'Association nationale des acteurs de la filière Banane Plantain. Tony Obambikwe, président de l'Association nationale des acteurs de la filière banane plantain.
Nous voulons fabriquer des chefs d'entreprise à qui on pourra prêter 10, 15, 20, 30, 250 millions et être capable de tirer la chaîne de valeur. Dans les métiers de pépiniériste, producteur de plants, soit dans les métiers de producteur de régie, soit dans les métiers de transformateur. C'est pour ça qu'on les amène en incubation pour ouvrir leur regard.
Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions Indomptables, est aujourd'hui âgé de 66 ans. Il pense que cette initiative vient à point nommé.
Après le football, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas pu continuer à mener la vie normalement. Bon, je crois qu'avec cette initiative, beaucoup de choses pourront changer.
L'ex-défenseur central de la QV 2000 des Lions Indomptables, Lucien Metomo, n'est pas moins intéressé par le programme de reconversion de ses pairs dans la filière banane plantain.
C'est un projet qui est du pain béni pour nous. Si cet exécutif-là, par la personne du président Samuel Eto'o, a ouvert cette porte-là, je peux vous garantir que nous allons nous engouffrer pieds, tête et mains liées.
Le gouvernement est partie prenante de cette initiative à travers le ministre de l'Agriculture. Le Cameroun s'est fixé l'objectif d'atteindre une production annuelle de 10 millions de tonnes de bananes plantain. Gabriel Bayoré, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.
Nous proposons une activité dans laquelle nous formons, d'abord nous développons les compétences des acteurs avant de les mettre sur le terrain.
Pour beaucoup d'anciens amateurs du ballon rond, planter les bananiers devient désormais le nouveau défi à remporter sur le terrain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden lève demain, jeudi, le titre 42, un protocole strict mis en place par son prédécesseur Donald Trump. Washington prévoit de dissuader l'immigration illégale avec le titre 8 qui va refuser toute résidence légale future en cas de passage clandestin. Eric Manirakiza a recueilli la réaction de Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie.
Il y a un déluge de gens illégaux. C'est dingue ce qui se passe. On ne peut pas accepter tout le monde.
Mais la frontière n'est pas ouverte. Il y a même plusieurs dizaines de milliers de militaires dépêchés à la frontière.
Oui, mais ça n'a rien à faire. Les gens vont continuer de venir. Trump avait raison. Il faut faire un mur. Un mur soit réel ou avec des milliers de soldats. C'est dingue ce qui se passe. Les villes sont envahies par déluge de gens. On ne peut pas accepter tout le monde. C'est dangereux pour nous. Il faut d'abord penser à nous-mêmes, aux Américains, qui n'ont pas suffisamment de bouffées. Et là, on va donner du fric aux mecs illégaux. Hein. C'est pas correct.
Oui, l'administration Biden prévoit de dissuader désormais l'immigration illégale avec le titre 8 qui refusera toute résidence légale future en cas de passage clandestin.
Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Les gens vont continuer, ils vont recevoir un petit papier. Ok, d'accord, on va te parler dans un mois, dans deux ans peut-être. Il faut les arrêter à la frontière, il faut des soldats. Il faut faire ce que Trump était en train de faire. Fermer la frontière. Allez, allez-vous-en. Je pense que nous autres Américains, et tu sais, hein, toute ma vie en Californie, on a ras-le-bol de ces gens. Ils viennent parfois au bureau, au moment de mon cabinet, et j'attends que je vais donner un coup de main, gratuitement. Ils attendent tout, puisque le gouvernement, le Biden et ses amis ont dit d'accord, l'Amérique est de retour. America is back.
Mais monsieur Beaver, ces nouvelles règles ont été vivement critiquées par les associations de défense des migrants qui accusent le président Biden de mener une politique migratoire pas si différente de son prédécesseur Donald Trump.
On va voir. Il faut voir. Puisqu'au départ, ce n'était pas comme ça.
Mais les États-Unis ont besoin de main-d'œuvre.
Légalement. Et venez ici illégalement, et sans parler la langue, évidemment. attendaient des soins médicaux, la bouffe, tout ça, de nous autres. C'est pas juste. C'est vraiment du vol des citoyens américains.
Mais l'administration Biden veut encourager les voies légales d'immigration et ceux qui vont entrer illégalement seront refoulés, c'est ce que dit la nouvelle mesure.
Très bien, très bien. Tu fais la demande depuis le Mexico, depuis le Venezuela, mais pas en venant ici illégalement.
C'était la réaction de Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès ne sont pas parvenus à un accord hier pour résoudre l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette afin que le gouvernement puisse respecter ses obligations financières. Si aucun accord n'est conclu dans les prochaines semaines, les États-Unis feront défaut pour la première fois de l'histoire, envoyant des ondes de choc financières dans le monde entier. Nathalie Bage relate un compte rendu de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widaskouara.
Le président Joe Biden a essayé de modérer la nervosité du marché mondial face à une crise imminente, quelques semaines avant que le pays ne risque de manquer à ses obligations pour la première fois de l'histoire.
J'ai précisé lors de notre réunion que le défaut n'est pas une option. Je l'ai répété maintes et maintes fois. L'Amérique n'est pas un pays irresponsable.
M. Biden a rencontré hier les dirigeants du Congrès dans le but de résoudre l'impasse afin que le gouvernement puisse emprunter plus pour payer ses factures. Mais le président de la Chambre, le républicain Kevin McCarthy, refuse d'augmenter le plafond de la dette à moins qu'il ne soit associé à des réductions de dépenses.
La Chambre a relevé le plafond de la dette de manière responsable, limiter nos dépenses en même temps, apporter-nous la croissance économique. Et j'ai posé cette question simple au président. Pense-t-il vraiment qu'il n'est pas possible de faire des économies quelque part?
Ne pas relever le plafond de la dette américaine pourrait non seulement déclencher une récession aux États-Unis, mais aussi envoyer des ondes de choc sur les marchés financiers mondiaux, prévient l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Un défaut créerait une incertitude mondiale quant à la valeur du dollar américain et des institutions et dirigeants américains, entraînant une volatilité des marchés monétaires et financiers, ainsi que ceux des matières premières dont le prix est fixé en dollars.
Le dollar américain est la principale monnaie de réserve mondiale. Si les États-Unis ne remboursaient pas leurs dettes, cela déclencherait une liquidation des bons du Trésor américain, ce qui affaiblirait le dollar, selon l'ancien directeur adjoint du FMI, Desmond Lachman, membre de l'Institut américain de l'entreprise.
Si les taux d'intérêt aux États-Unis augmentent, tous les autres taux augmenteront. Cela va rendre tous les autres actifs à risque très fragiles.
Les obligations du Trésor américain sont considérées comme l'investissement le plus sûr. Malgré la tourmente, les pays et investisseurs n'ont pas à s'inquiéter outre mesure d'un défaut de paiement des États-Unis, estime l'économiste Crebo Redeker, chargé de gestion adjointe au Conseil des relations étrangères.
Payer est plus une question de volonté que de moyens, et c'est une très grande différence face au défaut de paiement.
La dette des États-Unis a atteint un record de 31 000 milliards de dollars l'an dernier. Le pays a franchi sa limite d'endettement le 19 janvier, incitant le département du Trésor à utiliser des mesures spéciales pour continuer à payer les obligations du gouvernement et éviter un défaut de paiement. Les dirigeants ont prévu de se rencontrer à nouveau vendredi.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.